Alors tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à donner ce séminaire. Alors, malheureusement, j'ai choisi un autre aspect de la diffusion ou de la dynamique de diffusion des bactéries résistantes que ce que nous faisons sur l'utilisation des nouvelles technologies de la communication. Et j'ai en fait choisi de vous présenter, de vous raconter une histoire. Et en fait, il s'agit, donc je vais le mettre en plein écran, voilà, de vous raconter l'histoire, c'est au fond la suite de ce sur quoi je travaille depuis le début, qui concerne le pneumocoque, et on en viendra. Et il y a un lien, vous le verrez aussi, avec ces questions de dynamique de dissémination. Ça, c'est le contenu. Et on pourrait bien évidemment se poser des questions sur comment mesurer les contacts dans la communauté, mais ça, nous pourrons en parler. Alors, ma présentation s'effectuera donc, en plusieurs points. Je vous propose d'abord un petit préambule sur deux diapositives sur l'épidémiologie, et après j'entrerai dans les aspects théoriques. Quelques diapositives, et dans le déroulé, eh bien, je vous raconterai une histoire. L'histoire de la résistance du pneumocoque, comment est-ce que cette histoire, avec évidemment une sorte de complicité économique, hein, on reviendra dessus, mais a abouti au plan les antibiotiques, c'est pas automatique. Vous verrez que dans la suite de l'histoire, il y a des éléments un petit peu paradoxaux qui ne manquent pas de nous interroger sur ce qui se passe du point de vue de l'évolution et la dissémination des pneumocoques et des différents types de pneumocoques dans les populations et notamment dans la communauté. Alors l'épidémiologie, pour aller vite, hein, il y a quelques points qui sont importants. Ce pic d'étudier les états de santé dans les populations et aussi d'étudier l'impact des applications des résultats de l'épidémiologie. Mais ce qui est important, et je pourrais vous l'illustrer par des éléments un peu historiques, c'est que d'abord, il y a deux hypothèses ou deux postulats à la démarche épidémiologique. C'est que, un, les maladies ne surviennent pas au hasard. Et puis, le deuxième, c'est que les maladies ont des causes identifiables qui peuvent ne pas avoir d'évidence, au sens anglo-saxon du terme, biologique. L'exemple historique, c'est John Snow, c'est-à-dire j'arrive à ce que la pompe à l'origine de l'épidémie de choléra à Londres, dans la fin du 19e siècle, casse la pompe et l'épidémie s'arrête, alors même que je ne connais pas Vibrio cholerae. Voilà. Et donc la démarche épidémiologique que John Snow avait poussée quasiment jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il n'avait pas utilisé les outils de modélisation pour pouvoir prédire ce qui pourrait se passer si on ne faisait rien, a abouti à une décision au fond et à contrôler un phénomène épidémique qui était pour le moins assez mortel, sans même qu'on sache que c'était une bactérie qui était responsable du problème. Et dans le domaine de la recherche, plus particulièrement, alors il y a différentes perspectives à la démarche épidémiologique. Une grande, c'est la décision de santé publique ou les décisions de santé publique. Une autre, évidemment, c'est l'amélioration de la connaissance. Et vous allez voir que durant ce séminaire, je vais en permanence osciller d'un côté et de l'autre. Mais l'épidémiologiste, au fond, dans le domaine de la recherche, eh bien, se pique d'essayer de résoudre des problèmes, c'est-à-dire comprendre des mécanismes physiologiques ou physiopathologiques par la vision du plus grand nombre. En gros, l'idée et son manque d'humilité se pose sur ce pari. Ce que je ne vois pas chez mon malade ou via mon microscope, chez mon malade pour le médecin, via mon microscope pour le biologiste, eh bien peut être visible au niveau populationnel. Et donc comprendre des phénomènes qui n'existent. Alors, par exemple, comprendre des phénomènes, mais il n'y a pas que là, qui n'existent qu'à un niveau populationnel. Et vous allez voir que la résistance bactérienne, ou plutôt la dissémination des bactéries résistantes, eh bien, en est une illustration. Et de ce fait, eh bien, la démarche épidémiologique dans la recherche se propose ou se pose comme étant une dynamique de génération d'hypothèses biologiques qui peut ensuite retourner pour argumentation plus avant auprès des biologistes et des cliniciens. Alors, maintenant, je vais en venir à la question de la résistance, ou plutôt, ce dont je vais parler, c'est de l'interaction qu'il y a entre ce que Philippe Sansonetti, tout à l'heure, a abordé, l'usage des antibiotiques, ou le déversement, ou l'arrosage des populations par les antibiotiques, et puis la dissémination des bactéries résistantes. Et de ce point de vue, au fond, il y a historiquement deux visions. Il y a la vision du naïf. De nombreuses études montrent qu'il y a une corrélation entre l'usage des antibiotiques et les infections à bactéries résistantes. Ceci a un sens microbiologique. Il faut donc diminuer l'usage des antibiotiques. Et puis, il y a la vision du sceptique. Vous l'aurez deviné, je me pose plutôt sur cette deuxième perspective. Quels sont les mécanismes populationnels en jeu dans la relation causale entre l'usage des antibiotiques et la diffusion des bactéries résistantes aux antibiotiques ? Alors, la vision du naïf, elle est, sans avoir de jugement péjoratif, au fond, ça a été la démarche historique. Alors, je n'ai pas, concernant le pneumocoque, je n'ai pas repris le papier qui me semble un peu être original là-dessus, qui était un papier publié par Fernando Baquero, je pense, dans les années 90, un truc, quelque chose comme ça. Mais voilà. Et ça, c'est tout le début de la démarche épidémiologique. On fait ce que l'on appelle des corrélations écologiques. Une belle corrélation historique, c'était le French Paradox, par exemple, dans le domaine de la consommation d'alcool et du risque cardiovasculaire en Europe. Bon, la démarche ou l'exercice est simple. On vous met là ou on regarde là ce qu'il en est des quantités d'antibiotiques qui sont utilisées. Et puis là, vous avez une quantification de la résistance bactérienne. Ici, cette quantification, et souvenez-vous bien de ce que je vous dis, se fait en taux de résistance, c'est-à-dire en quantité de bactéries résistantes divisée par la quantité de bactéries totales qui sont isolées dans des prélèvements cliniques. Et donc, chaque point, au fond, représente un pays. Et donc là, une grande diversité de pays développés, et on essaye de tirer une droite, et on en déduit qu'il y a une relation entre l'exposition antibiotique et puis la résistance bactérienne. Vous le verrez, je vous l'ai déjà dit, mais voilà, c'est ici, le pourcentage exprime un taux de résistance, tant pour, là c'est le pneumocoque et la résistance ou la non-susceptibilité à la pénicilline, ici le pneumocoque et la non-résistance aux macrolides, et ici la résistance aux macrolides d'autres streptocoques. Alors, une fois qu'on a ça en tête, il est probablement utile de se pencher un peu plus sur, au fond, les différents niveaux d'interaction qui peut exister entre l'exposition antibiotique et puis la résistance bactérienne. Je vous en ai mis ici quatre. On peut regrouper probablement de façon assez simple population et environnement. Bon, schématiquement, il y a un niveau d'interaction génétique où les antibiotiques peuvent avoir une influence sur à la fois les fréquences de mutation au sein d'une bactérie et puis les transferts de matériel génétique entre plusieurs bactéries. Cela aboutit à ce qu'on peut appeler l'émergence ou l'acquisition de nouveaux mécanismes de résistance ou l'émergence d'un nouveau mécanisme de résistance dans une souche qui en était préalablement dépourvue. Vous allez voir qu'on va retrouver ce terme émergence à une étape ultérieure et qu'au fond, dès lors, on voit bien que la signification de l'émergence peut avoir plusieurs ou peut faire référence à plusieurs définitions. Ensuite, il y a le niveau bactérien. Alors, celui-là est probablement le plus simple à comprendre. On reviendra dessus sur une diapo ultérieure. Les antibiotiques laissent survivre les bactéries résistantes et accroissent la rapidité de disparition des bactéries sensibles, ceci aboutissant à la sélection. Et puis, il y a un niveau individuel au sein de l'organisme, puisque dès lors qu'une bactérie résistante colonise un écosystème, qu'il soit digestif, qu'il soit aérien ou cutané, l'exposition antibiotique va probablement avoir un impact sur les mécanismes de régulation des flores, et la bactérie qui est résistante dans la flore digestive va avoir l'opportunité de devenir dominante. Et en gros, on peut dire que c'est cette étape-là qui conduit à l'émergence d'une nouvelle bactérie résistante clinique. Et enfin, il y a la troisième étape, qui est une étape populationnelle, et où là survient un phénomène qui ne peut pas être appréhendé par les autres, les approches scientifiques, qui soient génétiques, bactériennes, microbiologiques ou cliniques. Eh bien, c'est la transmission interindividuelle, et que cette transmission interindividuelle, qui peut jouer entre les individus humains, mais aussi entre les humains et les animaux, et incluant l'environnement, eh bien, aboutit, au fond, tout ça, à cette diffusion dans les populations, et je vais vous expliquer comment les antibiotiques interviennent dans cette diffusion. Schématiquement, vous êtes dans un état, au regard de la colonisation par des bactéries résistantes, dans un de ces trois états. Et plus particulièrement sur le modèle pneumocoque, qui est un modèle particulièrement illustratif là-dessus. Sur les entérobactéries, les choses peuvent être un tout petit peu discutées. Et donc, je vous ai figuré sur cette diapositive, au fond, la dynamique que l'on a au regard d'une bactérie résistante ou au regard, par exemple, du pneumocoque résistant. Il y a trois états, un état de non-colonisé, un état de colonisé par une bactérie sensible et puis un état de colonisé par une bactérie résistante. J'utilise le terme colonisation parce que c'est vraiment la colonisation qui est la clé de la diffusion des bactéries résistantes si l'on considère qu'au fond, l'infection est une impasse épidémiologique pour la bactérie. Et donc, vous allez passer d'un état à l'autre, de cet état-là à l'autre, et des états de colonisés à des états de non colonisés. Et on va regarder un à un ce qui peut, dans ce cycle, intervenir. Alors, on va régler la question de l'émergence, qui fait référence à le terme émergence bactérienne, c'est-à-dire le premier niveau que je vous ai expliqué dans le schéma précédent. En termes populationnels, et plus particulièrement pour ce qui concerne le pneumocoque, le poids de cette émergence dans ce qui fait l'ensemble de l'évolution de la résistance ou des infections résistantes, des infections à pneumocoque résistantes aux bêta-lactamines par exemple, le poids de cette émergence est faible. Il y a des modèles où il est un peu plus fort, notamment à l'hôpital, mais grosso modo, ce poids est relativement négligeable. Alors ensuite, le passage de non colonisé à colonisé par une bactérie sensible ou par une bactérie résistante se fait par l'acquisition. Je suis avec vous, nous discutons, j'éternue, j'ai un pneumocoque dans la gorge, je vous le transmets, comme la grippe. Et cette transmission interindividuelle peut dépendre de l'aptitude, nous le reverrons, épidémique intrinsèque de la bactérie, et puis de la dynamique des contacts au sein des populations. Évidemment, elle est susceptible d'être modifiée par l'hygiène et l'isolement. C'est ce que l'on fait à l'hôpital. Une épidémie d'entérocoque résistant à la vancomycine survient. J'en parle d'autant plus savamment que dans mes activités hospitalières, je suis en ce moment amené à gérer le contrôle d'une telle épidémie. On met les patients, on prend des mesures d'hygiène, on les isole selon différentes modalités qui peuvent aller jusqu'à des isolements collectifs et l'épidémie s'arrête. Les antibiotiques peuvent avoir, sur certaines bactéries, ou c'est tout au moins des hypothèses qu'on teste actuellement, un impact sur l'acquisition. Je vous en ai parlé par les modifications de flore, mais probablement aussi par des modifications des capacités d'adhésion des bactéries. C'est des choses que l'on regarde et qui sont actuellement examinées, notamment pour staphylocoque résistant à la méticilline. Et puis, il y a la décolonisation. Et l'élément principal qui intervient sur la décolonisation, ce sont les antibiotiques qui augmentent la vitesse de décolonisation naturelle des bactéries sensibles relativement aux bactéries résistantes. Et ce qu'il y a de particulièrement important dans ce schéma, c'est de comprendre que les antibiotiques n'interviennent pas, ici je vous en ai parlé de façon assez mineure au fond, je l'ai mis parce qu'il est assez vraisemblable qu'il y ait un impact effectivement sur ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que les bactéries résistantes peuvent devenir dominantes dans le milieu à l'occasion d'une exposition antibiotique des individus. Mais l'élément majeur dans la dynamique diffusion des bactéries résistantes se fait sur la phase de décolonisation et non sur la phase d'acquisition. Alors, Comme vous le savez, les épidémiologistes ont des réseaux neuronaux assez simples et en général raisonnent avec des tableaux, ce qu'on appelle des tableaux de contingence. Et les épidémiologistes vont comparer les gens malades, non malades, exposés, non exposés, ce qui aboutit à ce qu'on appelle des tableaux de contingence à quatre cases. Dans la résistance bactérienne, comme je viens de vous l'expliquer, au fond, il y a trois états différents. Eh bien, les trois états différents compliquent un peu les choses, puisque du coup, on aboutit à un tableau à six cases. Il y a une autre notion qu'il faut que je vous explique, c'est ce terme barbare, odd ratio, qui est un terme qui fait référence au rapport des cotes en France, en français, mais qui, au fond, est une unité de mesure de la force de l'association entre deux phénomènes en épidémiologie. En gros, ça mesure ce qu'on appelle le risque relatif ou le rapport de risque, hein, c'est-à-dire le risque d'avoir une maladie quand on est exposé à quelque chose divisé par le risque d'avoir une maladie quand on est exposé à autre chose. Et donc, c'est le coefficient multiplicateur du risque d'avoir cette maladie quand on est exposé, par exemple, là, à un antibiotique, pour ce qui concerne les bactéries résistantes. Et donc, vous voyez qu'il y a quelque chose de particulier dans cette question de la résistance aux antibiotiques, c'est qu'au fond, il est moins simple, parce qu'il y a trois états, ce qui se passe quand on essaye de mesurer le risque de pathologie cardiovasculaire alors même que l'on a été fumeur. Et du coup, on amène ou on arrive à définir non pas une seule association, mais si on fait la combinaison au sein de ce tableau, eh bien au fond, trois associations. Un risque relatif qui concernerait l'impact populationnel sur la colonisation par les bactéries sensibles, un risque relatif qui concerne l'impact populationnel sur la colonisation par les bactéries résistantes, et puis un risque relatif qui fait la comparaison entre les bactéries résistantes et les bactéries sensibles. Et ça, c'est une notion particulièrement importante, parce que du point de vue du clinicien, il est bien évident que c'est cet effet de sélection qui est important quand il prescrit un antibiotique. Mais du point de vue du décideur de santé publique, ce qu'il a envie de savoir, lui, c'est l'impact que l'exposition antibiotique peut avoir sur la diffusion des bactéries résistantes dans la population. Et vous voyez bien qu'il y a deux plans, du coup, qui sont des plans de décision. Le clinicien décide pour son malade, le décideur de santé publique décide pour sa population, et qu'au fond, alors, l'odd ratio, celui-là, le risque relatif sensible se déduit des deux autres, mais qu'au fond, du coup, pour pouvoir prendre de bonnes décisions, eh bien, pour pouvoir naviguer sur les bonnes décisions, il est important, en fonction du point de vue, de faire référence aux deux. Et donc, du coup, quand on travaille sur la question de la résistance bactérienne, eh bien, de s'intéresser à générer de l'information qui concerne les deux types de décisions. Et là, je vous ai graphé un petit exercice de modélisation, enfin de simulation que j'avais fait en fonction de l'activité antibiotique, parce que vous allez voir que cela a de l'importance sur les diapositives qui viennent juste après. Au fond, ces risques relatifs, c'est-à-dire cette augmentation de risque en fonction de l'exposition, eh bien, n'ont pas le même comportement. Et là, je vous les ai figurés en fonction de l'activité antibiotique. Alors, une activité antibiotique qui irait de 0 à 1, donc ici, à la place ou en lieu de l'antibiotique, on administre du sérum physiologique, donc avec aucune activité antibiotique. Et puis, ici, on a un antibiotique, je crois que j'avais mis quelque chose comme la destruction de toutes les bactéries en quelques heures après l'exposition à une dose de je ne sais plus combien, mais peu importe. Eh bien, vous voyez que les comportements sont complètement différents, puisque le risque relatif conditionnel qui compare les bactéries résistantes aux bactéries sensibles, eh bien, lui, ne bouge pas, alors que... non, pardon, je me trompe. C'est celui-là. Le conditionnel, celui qui compare les bactéries résistantes aux bactéries sensibles, eh bien, augmente et tente à tendre vers l'infini. Alors même que celui-là, eh bien, a un comportement qui ne bouge pas de 1, qui est, au fond, naturellement, l'impact de l'exposition antibiotique sur la colonisation par des bactéries résistantes, si l'on considère un modèle simple qui joue juste sur l'impact sur la phase de décolonisation. Alors, quand on regarde les différents travaux qui ont eu lieu là-dessus concernant le pneumocoque, eh bien, on s'aperçoit que ce risque relatif conditionnel qui est là, figuré dans cet article publié par Marc Lipsitch dans les années, je crois que c'est dans les années 2000, et qui rapportait un certain nombre de travaux qui avaient été faits sur ces questions. Et on observe que voilà, ce risque relatif oscille entre 2 et 5. Et si l'on regarde l'effet populationnel de l'exposition antibiotique, eh bien, on s'aperçoit qu'au fond, conclure sur une supériorité à 1 est particulièrement douteuse. Alors, d'autres exemples ont été rapportés. Ici, c'est toujours ce même risque relatif. Là, il concerne, je ne sais plus quelle était la bactérie. Je pense que c'était dans un papier du BMJ. Ça devait être les infections urinaires et Escherichia coli, je crois. Ici, je crois qu'on avait pneumocoque et macrolide. Et donc, vous voyez que ces risques relatifs sont donc conditionnels, sont effectivement tous au-dessus de 1. Alors voilà, c'est à la lumière de ces travaux-là qu'il a été décidé, il y a quelques années, de mettre en place d'abord un premier plan antibiotique, donc qui était un plan gouvernemental au sein duquel s'est nichée la campagne « Les antibiotiques, c'est pas automatique » qui a été promue, financée par l'assurance maladie. Et au fond, ayant été pas mal impliqué dans cette campagne ou à l'élaboration de la campagne, j'ai bien compris qu'il y avait une sorte de conjonction entre les inquiétudes qu'on pouvait avoir sur la résistance bactérienne du pneumocoque, la résistance du pneumocoque au bêta-lactamine à l'époque, et puis cette idée que l'assurance maladie avait aussi sur ça va permettre de diminuer le coût lié aux antibiotiques. Pourquoi pas, c'était finalement de bonne guerre. Un rapport de la Cour des comptes, plusieurs années après, a justement souligné l'intérêt que la campagne avait eu en termes de réduction des coûts concernant les antibiotiques dans la communauté. Et donc, ce que je vais vous raconter maintenant, c'est l'évolution et finalement ce qui s'est passé sur le pneumocoque, les méningites à pneumocoque et les questions que ça pose en termes de transmission du pneumocoque dans la communauté. Alors voilà, la campagne a commencé, si je ne me trompe pas, en janvier 2002. Vous avez donc là l'évolution jusqu'en janvier 2007. Ici, vous avez la série chronologique de la consommation antibiotique en France. Et donc, en 5 ans, on s'aperçoit assez naturellement qu'il y a eu une baisse de plus de 25%. Cette baisse a concerné tout particulièrement les enfants, je crois que j'ai une diapositive là-dessus, où là vous avez donc de décrit en rouge l'état au moment du début de la campagne, en vert de décrit la consommation antibiotique en fonction de l'âge entre octobre 2006 et mars 2007, et on voit très très bien les trois grosses inflexions, la première chez l'enfant, où là, la réduction a avoisiné les 40%. La deuxième, chez les préadolescents, il est possible que cette inflexion-là soit liée à l'utilisation des tests de diagnostic rapide. Et puis, chez les jeunes adultes, où l'explication n'est pas très évidente, si ce n'est qu'il est possible qu'il y ait eu un effet chez les jeunes adultes en rapport avec la campagne qui était centrée ou qui a eu un effet sur les enfants. Voilà l'évolution cartographique. Et donc on voit très très bien, c'est absolument frappant, la manière dont en 5 ans, la carte s'est éclaircie du point de vue de l'exposition antibiotique. J'utilise le mot exposition à dessein, un peu comme si on avait cette idée d'un arrosoir qui passe comme ça sur la population française, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, puisque la France était un des pays, à l'époque, parmi les plus utilisateurs d'antibiotiques en Europe, voire le plus utilisateur d'antibiotiques en Europe. Parallèlement à ça, s'est développé un programme de vaccination utilisant un vaccin conjugué, glyco-conjugué, 7 valents, Et donc là, vous avez sur ce graphique, en rouge, eh bien, c'est la même courbe concernant les antibiotiques. Et puis en noir, vous avez la courbe des ventes de vaccins PCV7. Il existe maintenant un vaccin 13 valent. Et donc vous voyez que 2003, début de la vaccination, des recommandations qui s'étendent à tous les enfants à partir de 2006. Avant, en France, les recommandations étaient un tout petit peu restrictives au sens où elles s'étaient centrées sur les enfants vivant en collectivité ou vivant dans des familles avec plus de 2 ou 3 enfants dans la fratrie, je crois. Ce qui a probablement un peu freiné l'augmentation des recours à la vaccination durant les premières années, alors que les États-Unis ont commencé autour de ces années-là à vacciner chez eux. Voilà, donc vous voyez bien il y a eu donc un plan avec du succès sur la diminution de l'usage des antibiotiques, un programme de vaccination qui a abouti, ici on est à probablement plus de 80% de couverture vaccinale. Vous avez donc ces deux cartes européennes qui sont toujours mesurées en taux de résistance et pas en incidence ou en quantité d'infection résistante. C'est-à-dire en taux de résistance, je vous rappelle, c'est le nombre de bactéries résistantes divisé par le nombre de bactéries totales, schématiquement, alors qu'un taux d'incidence ou une prévalence, ce serait un nombre d'infections à bactéries résistantes divisé par un nombre d'individus humains. Donc on a là la France dans les années 2000 qui était identifiée comme le chef de file la résistance du pneumocoque et qui au fond, au bout d'une dizaine d'années, eh bien, se normalise et revient dans une moyenne assez raisonnable parmi les pays européens, laissant la tête à l'Espagne ou à d'autres pays plus à l'est de nos contrées. Alors, la question qu'on peut se poser, au fond, c'est qu'est-ce que ça a eu comme effet sur l'évolution des infections invasives à pneumocoque en France? Et donc, vous avez là le nombre de méningites à pneumocoque en France depuis 2002-2003 jusqu'en 2008-2009, sur des périodes donc, de 12 mois. Et ce que l'on observe, au fond, c'est une tendance à l'augmentation. Vous avez deux courbes sur ce graphique. La première courbe, c'est le dénombrement issu de ce qu'on appelle le PMSI, le programme, programme de médicalisation des systèmes d'information. Quand vous allez à l'hôpital, eh bien, vous êtes enregistré avec un diagnostic et les informations sont maintenant centralisées par un organisme qui s'appelle l'ATIH, dont le siège est à Lyon. Et là, ce sont les chiffres du Centre national de référence du pneumocoque. On peut voir que, grosso modo, les courbes suivent les mêmes tendances sans avoir une parallélité complète. Mais tout de même, les tendances sont assez comparables et surtout, elles sont des tendances à la hausse. Et si on veut faire l'évaluation de combien il y a eu de méningite à pneumocoque en plus en 2009, comparativement à l'état 2001-2002, eh bien, le résultat, c'est plus 23%. Voilà. Alors, française, l'ensemble de la population française. Alors, justement, ta question, puisque il y a la diapositive en fonction de l'âge. Alors, si on regarde ce qui s'est passé en fonction de l'âge, c'est particulièrement intéressant. Je vous propose de regarder la partie gauche, c'est-à-dire chez les enfants de moins de 2 ans, et de regarder ce qui s'est passé en fonction à la fois de la sensibilité aux antibiotiques et de ce que les sérotypes concernent, des sérotypes pris en compte dans le vaccin ou non pris en compte dans le vaccin. Donc regardons déjà concernant les sérotypes vaccinaux. Ce sont ces deux courbes, la verte, voilà, et celle-ci, la bleue. Initialement, le vaccin avait été conçu sur une base de sérotypes correspondant aux sérotypes les plus résistants vus aux États-Unis. pas en Europe. Et donc, il est assez naturel que les sérotypes... Alors, il y en avait effectivement aussi plus, mais il n'était pas complètement... Il était moins adapté à l'Europe qu'il était adapté à la population américaine. Bon, voilà. Mais néanmoins, il y avait effectivement beaucoup de sérotypes vaccinaux qui étaient résistants. Et on observe assez nettement une diminution de ces sérotypes vaccinaux, voire une quasi-disparition. Vous verrez, j'ai des données un peu plus chiffrées dans la diapositive d'après. Et ce que l'on observe, eh bien, c'est une augmentation principalement des sérotypes non vaccinaux liés à des bactéries qui sont des bactéries sensibles aux antibiotiques. Les tendances chez les personnes de plus de 54 ans sont à peu près les mêmes, mais de façon peut-être un peu moins prononcée. Encore que la significativité est statistiquement plus évidente chez les personnes âgées que chez les enfants. Alors là, les données sont globales, et donc vous voyez que pour ce qui concerne les sérotypes vaccinaux, eh bien, on a effectivement une diminution à la fois importante, à la fois des bactéries sensibles et des bactéries résistantes, et ça confirme de façon indubitable. Alors, ce qu'on peut appeler l'effectiveness, pour utiliser un terme anglais, maintenant on a un terme français, ou plutôt une combinaison de mots français qui s'appelle l'intérêt de santé publique, du programme de vaccination au regard des sérotypes qui étaient ciblés. Et on voit alors, à cette occasion, un glissement des sérotypes, ce qui s'appelle un remplacement sérotypique. Alors là, c'est peut-être pas très clair, mais assez schématiquement, les sérotypes vaccinaux ont glissé vers des distributions, vers les queues de distribution, alors même que des sérotypes qui n'étaient pas inclus dans le vaccin ont glissé vers la partie gauche de la distribution sérotypique des pneumocoques identifiés dans les méningites. Ça, on appelle ça le remplacement sérotypique. Et ce remplacement sérotypique a déjà été observé, publié dans d'autres travaux, on n'en est pas les premiers. Ce qui est assez notable tout de même, c'est de voir, et les autres travaux l'évoquent, c'est de voir la rapidité avec laquelle ce remplacement sérotypique s'opère. Alors maintenant, on est sur des sérotypes non vaccinaux, toujours le même schéma, les bactéries sensibles, les bactéries résistantes, et ce qui est absolument frappant, c'est d'observer l'augmentation, au fond, des bactéries, des méningites à sérotypes non vaccinaux et liées à des bactéries qui sont sensibles aux antibiotiques. Alors, il y a deux conclusions de cela qu'on tire. La première, c'est que, au fond, le fait qu'il y ait du remplacement sérotypique ne peut être dû qu'à ce qu'il y existe de l'immunité naturelle ou de la compétition naturelle entre les différentes souches ou les différents sérotypes qui circulent dans la population. Alors, de l'immunité naturelle ou plutôt de la compétition naturelle qui est probablement due à des phénomènes immunitaires. Et puis la deuxième chose, ou en conclusion, ou en point d'interrogation, c'est que l'augmentation de l'incidence des méningites à pneumocoques, à quoi peut-elle être due ? Alors, soit une différence de pathogénicité, les bactéries ne sont pas les mêmes et donnent plus vite des méningites, ou des différences d'épidémicité entre les différents sérotypes en fonction des antibiotiques, enfin en fonction de la susceptibilité aux antibiotiques. Alors, l'histoire, en fait, débute dans les années 2000. Et ça, c'est un travail que nous avions fait, qui était un essai d'intervention. Alors, vous savez, les épidémiologistes aiment bien faire ce genre de choses. Et donc, on avait pris trois populations. Là, je ne vous en ai décrit que deux. Deux populations, et dans une population qui était une population du nord de la France, nous avions implémenté un programme pour diminuer l'usage des antibiotiques. Et nous l'avions comparé à une autre population d'enfants, des enfants de 3 à 6 ans, donc que nous allions chercher dans les écoles maternelles. Et le groupe contrôle était un groupe du département du Loiret, Donc on avait implanté un programme pour diminuer l'usage des antibiotiques, ce qui a marché, et l'idée était d'observer ce que ça pouvait faire sur la colonisation de ces enfants par les pneumocoques, et notamment les pneumocoques résistants. Et les résultats étaient assez frappants, d'une diminution du taux de résistance, le même taux dont je vous ai parlé, tout à fait significative, en 6 mois, très rapidement, à l'issue d'une diminution importante et significative de l'usage des antibiotiques que je ne vous avais pas présenté ici. Mais cette diminution de l'usage des antibiotiques n'était pas liée à cette diminution de la résistance, pardon, n'était pas liée à une diminution de la colonisation par les bactéries résistantes, elle était liée à une augmentation de la colonisation par les bactéries sensibles. D'où l'hypothèse que nous avons eue à l'époque et sur laquelle nous travaillons, d'une différence d'épidémicité intrinsèque des pneumocoques en fonction de la sensibilité aux antibiotiques. Alors voilà, un travail complémentaire qui a été fait par un de mes brillants étudiants qui est d'ailleurs ici, à partir des données recueillies dans cet essai, et qui a permis d'établir dans un premier temps qu'au fond, dans les données que nous avions, eh bien, on pouvait observer des différences d'épidémicité en fonction des différents sérotypes des pneumocoques. Les choses n'étaient pas complètement nouvelles, mais n'étaient pas non plus complètement quantifiées. Et surtout, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été plus loin dans ce travail en observant qu'il pouvait y avoir au sein de différents sérotypes eh bien, des différences d'épidémicité en fonction de la résistance ou de la sensibilité des souches. Et que ces différences eh bien, pouvaient se voir soit dans le sens d'un accroissement ou soit dans le sens d'une diminution d'épidémicité en fonction de ce que les souches étaient sensibles ou résistantes. Deuxième chose que nous avons fait, c'est de regarder ce qu'il en était au fond des facteurs qui pouvaient affecter les dynamiques dans les populations françaises, dans la population française, dynamique de méningite à pneumocoque. Et l'approche là est assez originale puisque l'idée est de combiner la modélisation mathématique à l'observation de données et d'essayer de construire de différents modèles incluant différents paramètres dont je vais vous détailler ce qu'il est important de regarder, et en essayant d'optimiser ce qu'on appelle l'adéquation du modèle aux données, pour en tirer des estimations de paramètres et en tirer des conclusions sur les mécanismes qui peuvent être en jeu en fonction des hypothèses qui sont faites dans ce modèle. Et là, vous avez, au fond, deux paramètres à regarder, le zeta qui est ici, et puis le pi qui est ici, qui sont des paramètres qui posent l'hypothèse, et puis évidemment un autre qui concerne, non, qu'on voit sur la diapositive d'après. Le zeta qui est ici et le pi qui est ici, le zeta qui pose l'idée que les pneumocoques pourraient être transmis plus en fonction de l'incidence des infections virales respiratoires, et le pi qui est ici qui pose que le risque de méningite quand on est infecté par un le risque de méningite quand on est colonisé par un pneumocoque est accru quand on est affecté par une infection virale respiratoire, par exemple la grippe ou une autre. Et les résultats sont les suivants. Alors, je vous passe évidemment les détails de comment est-ce qu'on a abouti. Il se trouve que c'est le modèle le plus complet qui était le plus en adéquation avec les données. Et très clairement, ces résultats suggèrent évidemment que non seulement, alors le zeta s'est transformé en xi, mais bon, que non seulement eh bien, les infections respiratoires virales augmentent le risque de transmission, mais qu'elles augmentent aussi le risque d'infection quand on est colonisé, et que pour expliquer les données d'observation, eh bien, il faut aussi mettre un facteur qui est une différence d'épidémicité en fonction de la sensibilité des souches aux antibiotiques, à savoir un facteur de 1,21 qui n'est pas très élevé, mais qui peut suffire à expliquer voilà, ce qu'on a observé sur les méningites préalablement, ce que je vous ai présenté comme données. Alors en gros, ce qu'on peut dire de ça, c'est que la transmission, du pneumocoque, mais c'est aussi vrai d'autres bactéries à l'hôpital, il y a très vraisemblablement des phénomènes qui sont liés à ce qu'on pourrait qualifier d'épidémicité intrinsèque, tout comme on peut dire aussi que les bactéries, eh bien, ont une pathogénicité intrinsèque, et qui peut, pour le pneumocoque, être influencée par le sérotype, par la sensibilité aux antibiotiques, et puis aussi par les dynamiques des infections virales, comme la grippe, mais peut-être aussi d'autres infections, et que ça devrait certainement être pris en compte pour la conception des nouvelles générations de vaccins antipneumocoxiques, et aussi pour le contrôle, les programmes de contrôle de l'usage des antibiotiques. Alors, la conclusion de la conclusion, c'est que, comme vous l'avez vu, un train peut en cacher un autre. D'abord, il y a du remplacement sérotypique. Ce remplacement sérotypique est lié, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, probablement, et il y a un certain nombre de travaux qui portent là-dessus, sur la compétition intersérotypique. Est-ce qu'il y a là des mécanismes immunologiques? Très vraisemblablement. Il y a eu une augmentation des infections à pneumocoque sensibles, notamment des méningites. Est-ce que cela est dû à une différence d'épidémicité ou de pathogénicité? On a tendance maintenant à dire qu'il y a une différence d'épidémicité, même si certains sérotypes sont potentiellement plus pathogènes que d'autres. Que faire? Alors, certainement que la perspective, puisque comme je vous l'ai dit en introduction, il y a un vaccin qui maintenant comporte 13 valences, mais il est très très vraisemblable que le remplacement sérotypique s'opérera de la même manière avec le 13 valent. Et donc l'idée, c'est quand même d'avoir, comme pour ce que l'on fait pour la grippe, eh bien, d'aller vers une adaptation réactive du contenu vaccinal qui nécessairement aboutira à une divergence des contenus vaccinaux en fonction des différentes régions. Quand je vous dis différentes régions, ce n'est pas la région Île-de-France versus la région PACA, mais les différentes régions du globe. Et puis concernant la consommation des antibiotiques en ville, alors faut-il, et vous voyez le dilemme non pas du prisonnier mais du décideur de santé publique, faut-il accepter plus de méningites sachant qu'elles sont moins résistantes aux bêta-lactamines? La question est posée. La question est posée et pourrait probablement être mieux argumentée. Si l'on avait des travaux concernant les conséquences ou des travaux, voilà, conséquents en l'occurrence, concernant les conséquences de la résistance bactérienne dans les méningites en France. Alors, faut-il arrêter de diminuer l'exposition antibiotique de la population? Donc ça, c'est le deuxième dilemme du décideur de santé publique. Voilà, la réponse n'est pas non plus évidente puisque, comme vous le savez, actuellement, il y a, ou peut-être que on vous l'a raconté, il y a un risque de dissémination des Escherichia coli producteurs de BLSE dans la communauté, et que très vraisemblablement, le moteur de cette dissémination, eh bien, c'est l'exposition aux bêta-lactamines. Voilà, je vous remercie. Je vais juste remercier mes collaborateurs, Mathieu Domenech, Hélène Chaussade, enfin, tous les gens qui ont participé et qui continuent d'ailleurs de participer à cette histoire. Pierre-Yves Boël, Lula Opatowski, Laura Thomim, Emmanuel Varron du CNR, Laurence Vattier, qui est une statisticienne du laboratoire, et puis aussi donc l'assurance maladie et le réseau social des indépendants, qui sont quand même les pourvoyeurs de données sur lesquelles on travaille. Et ce n'est pas si habituel que ça que de travailler sur des données qui sont probablement, de ce point de vue, les meilleures données au monde, et les observatoires régionaux du pneumocoque. Je vous remercie.